Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio. Bonne écoute. J'ai un petit faible pour les vidéos où un chien retrouve son maître après des années de séparation. Quand on voit ce genre de scène, quand on voit l'émotion débordante de ce chien, on ne peut pas douter de la puissance de l'amour qui peut unir un être humain et un animal domestique. Mais si cet amour existe, il ne représente en fait qu'une petite facette de l'histoire de la domestication animale, une histoire qui s'avère être d'une grande violence. Valérie Chansigo est historienne des sciences et de l'environnement, et dans son livre sur le sujet, elle affirme que la domestication est avant tout une histoire de domination, puisqu'il s'agit in fine de transformer les animaux de manière à satisfaire des besoins humains, que ce soit des besoins alimentaires, culturels ou affectifs. Quelles sont les conséquences de la domestication sur les bêtes? Certaines d'entre elles ont-elles intérêt à être domestiquées? Faut-il libérer les animaux domestiques? Dans son livre, Valérie Chansigo raconte l'histoire de la domestication de milliers d'animaux. Pas seulement celle des chiens, chats et autres animaux de compagnie, mais aussi et surtout celle des animaux qu'on élève pour leur viande, pour leur force ou pour leur fourrure, ou plus récemment pour des tests en laboratoire. Et elle réserve le terme de domestication à un phénomène très précis, qu'il faut distinguer du dressage ou même de l'apprivoisement.
La domestication est l'acte de sélectionner génération après génération certains individus, de les faire se reproduire ensemble pour conserver certaines caractéristiques de ces individus. La domestication est donc un phénomène qui est héréditaire, contrairement au domptage, par exemple, au dressage. Si je dresse un animal sauvage, lorsqu'il va mourir, il ne va pas transmettre à sa descendance ce qu'il aura appris durant son vivant. La domestication, c'est différent. On agit sur les gènes et du coup, l'individu que l'on va produire a des caractéristiques héritées par ce travail de sélection génétique que font les éleveurs depuis toujours.
Ça, c'est un point important. La domestication repose sur la sélection d'individus adaptés à l'élevage, ce qui implique d'une part l'élimination des moins dociles, de ceux qui ont peur des êtres humains, et d'autre part, un contrôle de la reproduction pour bien isoler les individus domestiqués des espèces sauvages. Et cette pratique, qui existe depuis des millénaires, et donc évidemment bien avant que les hommes aient la moindre notion de génétique, a eu des effets sur l'ADN des animaux. Et il a conduit chez toutes les espèces domestiquées à des transformations physiologiques radicales et en particulier à l'émergence de ce qu'on appelle le syndrome de domestication.
C'est une idée géniale de Darwin, il en a eu quelques-unes dans sa vie. Il va observer que les animaux domestiques présentent très souvent des caractéristiques communes. Par exemple, un cerveau plus petit, des oreilles souvent cassées, une truffe, enfin un museau plus aplati. Une masse corporelle souvent plus petite, des oestrus, c'est-à-dire le nombre de fois où ces animaux vont se reproduire dans l'année, beaucoup plus nombreux. Tout cela, il va dire, c'est le résultat de la domestication. Il ne connaît pas du tout la génétique à l'époque, il ne pourra pas l'expliquer. Et on aura baptisé ce phénomène décrit par Darwin un peu plus tard comme syndrome de domestication.
Comment est-ce qu'on distingue une espèce domestique d'une espèce sauvage?
C'est une très bonne question et redoutable, parce que dès qu'on la pose à des spécialistes, il y a des exemples très faciles. C'est-à-dire, on sait par exemple que le chien a été domestiqué. On sait que le ver à soie est un parfait exemple de domestication, parce qu'il a même perdu la capacité à survivre dans la nature. Mais il y a bien d'autres exemples qui sont dans une sorte de zone grise entre des individus, une population parfaitement sauvage et des individus ou une population parfaitement domestique. Le chat, par exemple, est situé dans cette zone grise. On a l'impression que le chat est domestique. Pourtant, il fait deux choses qui, déjà pour Darwin, paraissaient ne pas être le signe d'une parfaite domestication. Il est capable de se nourrir tout seul, contrairement aux chiens et bien d'autres animaux. Et également, on le voit par exemple si on est, je ne sais pas, dans une zone pavillonnaire, eh bien son chat peut très bien décider de s'installer dans la maison d'à côté et on va perdre son chat. En fait, le chat n'est pas intimement associé ou fidèle à son maître.
Si l'on remonte aux origines de l'histoire de la domestication animale, elle commence il y a environ 15 000 ans avec le chien.
tous les chiens actuels, du plus petit, du chihuahua ou dog allemand, viennent d'un seul et même ancêtre, à savoir le loup gris. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait également pourquoi. C'est pour servir d'auxiliaire de chasse. La puissance, l'efficacité en tant que chasseur d'Homo sapiens a été démultipliée par la présence du chien domestique. Certains spécialistes attribuent la disparition de la grande faune de l'âge de glace probablement à cette efficacité accrue. Peut-être que même l'homme de Néandertal a disparu parce qu'il était face à un compétiteur, Sapiens et son chien, qui était beaucoup plus efficace pour s'accaparer en fait les proies disponibles par rapport à lui qui chassait sans animal domestiqué.
Dans son livre, Valérie Chansego apporte une précision intéressante sur l'utilité du chien. Elle explique que le cerf, l'ours et le sanglier fuient devant l'homme, mais vont tenter de se défendre face à un chien, ce qui donne alors plus de temps à un chasseur humain pour arriver sur sa proie.
Il y a autre chose que vous expliquez dans cette première domestication, c'est le fait que le loup ou le chien en devenir avait un intérêt lui aussi à venir à se rapprocher des hommes. Vous parlez de commensalisme, peut-être expliquer ce concept.
Alors, on désigne par commensalisme le fait qu'une espèce vit au contact d'une autre espèce pour bénéficier en quelque sorte de cette espèce. On connaît par exemple des espèces d'araignées extrêmement petites qui vivent sur la toile d'autres espèces beaucoup plus grandes et elles profitent pour manger les proies minuscules qui se prennent dans la toile qui n'intéressent pas la grande araignée propriétaire de la toile. Ça, c'est une forme de commensalisme. C'est de vivre, pas vraiment aux dépens, c'est pas du parasitisme, mais c'est vivre en fait en profitant d'une autre espèce. Et on pense que les loups avaient intérêt à tourner autour des campements de nos ancêtres préhistoriques parce qu'ils pouvaient bénéficier du reste des proies, c'est-à-dire des os jetés, éventuellement de leur voler de la nourriture. Donc il y a eu un rapprochement qui a débouché très vite sur le fait de capturer des loups, de garder certains individus qui montraient le plus de docilité, et ça a enclenché le mécanisme de domestication.
L'histoire de la domestication est donc très longue. En résumé, pour avoir quelques repères, bien après la domestication du loup, il y a eu celle, il y a environ 12 000 ans, des grands herbivores, d'abord les chèvres, les vaches, les moutons, qui sont employés pour leur lait, pour leur viande et pour leur force, et cette domestication qui s'étale sur plusieurs millénaires, avec ensuite notamment le cochon, va modifier les sociétés en profondeur puisqu'elle accompagne l'essor de l'agriculture. Ensuite, il y a environ 8 000 ans, on commence à domestiquer les oiseaux, et là c'est pour des raisons alimentaires bien sûr, mais aussi culturelles. On utilise notamment les poulets et les pigeons pour des sacrifices rituels et les coqs pour des combats. Et c'est bien plus tard que l'être humain a commencé à posséder des animaux domestiques comme animaux de compagnie.
La place d'animaux de compagnie, c'est-à-dire d'animaux qui sont à côté de nous, non pas parce qu'ils servent à une fonction, je dirais, utilitaire, mais parce qu'ils ont comme fonction, qui est également utilitaire, de nous divertir, de nous donner l'impression d'être important et d'avoir de l'affection en retour. Ça, c'est quelque chose qui naît de façon variable en fonction des espèces. C'est apparu beaucoup plus tôt pour le chien, par exemple, où on a des représentations picturales de la Renaissance, où on voit des figures de la noblesse avec ce que les Britanniques ont une appellation qui est très claire, des toy dogs. Des petits chiens qui sont des chiens, en fait, qui ressemblent beaucoup aux races actuelles, et qui sont en fait des chiens qui ne servent juste pour se divertir. Le chat s'est apparu, ce phénomène, beaucoup plus tardivement. Et là, il faut attendre le 19e siècle pour que le chat commence à être autre chose qu'une machine de guerre contre les souris. Et on commence à développer peu à peu des liens d'affection avec les chats.
Mais c'est marrant parce que la manière dont vous avez répondu, on voit que ça reste utilitaire, même quand on parle d'amour et de tendresse.
Bien sûr.
Vous maintenez le registre de l'utilitarisme.
Ah, complètement. Il faut imaginer que les animaux de compagnie avec lesquels on a des relations d'affection ont des relations d'affection parce qu'on les a fait comme ça. On les a rendus capables de nous donner l'impression qu'il y a une super relation d'affection avec ces animaux. C'est-à-dire, par exemple, la sélection artificielle conduit à avoir des individus qui ont des comportements infantiles. Et ça, ça nous permet d'avoir une sorte de relation très, très spécifique, parce qu'effectivement, jouer avec son chien, par exemple, est une source de plaisir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des relations extrêmement fortes, extrêmement réelles. Je ne mets pas du tout en doute l'affection qu'on peut avoir, ou le bonheur qu'on peut avoir, mais parce qu'on les a créées pour rendre ce service-là. Et à ce titre, c'est totalement utilitariste.
Les hommes domestiquent les animaux et créent des races depuis très longtemps, mais le phénomène de création de races s'est intensifié au XVIIIe siècle. Ça commence avec les chevaux, pour les classes supérieures. Celles-ci sont imitées par la classe moyenne qui développe un goût pour les races de chiens puis de chats, tandis que dans les classes populaires, on se met à élever des races de pigeons.
Il y a une passion qui commence à naître un peu au XVIIIe et qui fleurit vraiment au XIXe siècle, qui est une passion irrépressible pour les races. Et d'ailleurs, cette passion s'inscrit tant dans le domaine végétal, domaine animal, mais aussi dans le domaine humain, avec la montée en force de différentes formes de racisme, y compris des racismes scientifiques. Les choses sont vraiment l'idée qu'on va développer des individus hors normes en accentuant encore le travail de sélection.
En fait, on pousse la domestication un cran plus loin.
Tout à fait. Et en fait, les races actuelles, que ce soit de chiens, de chevaux, de chats, etc., ont toutes été créées il y a moins de deux siècles. Cette passion pour les races a des conséquences souvent assez négatif sur les animaux qui les subissent. Je vais prendre un exemple, les carlins, ces petits chiens avec une face extrêmement aplatie, le fait d'avoir sélectionné des individus avec une face aplatie fait qu'ils ont des problèmes respiratoires.
C'est là qu'on voit que même des animaux qui ne sont pas élevés pour leur viande ou leur fourrure, mais juste pour donner et recevoir de l'amour et des câlins, même eux sont victimes des effets biologiques négatifs de la domestication. Mais il y a autre chose que pointe Valérie Chansigaud dans son chapitre sur le chien, qui est supposément le meilleur ami de l'homme, c'est qu'en pratique, la vaste majorité d'entre eux sont des chiens errants.
Quand on parle de chiens errants, ce n'est pas les chiens errants que l'on peut connaître en Europe occidentale ou en Amérique du Nord, où la circulation des chiens est extrêmement encadrée. Là, il s'agit de chiens qui naissent, qui grandissent, qui se reproduisent et qui meurent en dehors d'une maison. Ils vivent en périphérie des villages, souvent sur les dépôts d'ordures. Ils ont des vies extrêmement, d'ailleurs, réduites en durée, extrêmement précaires. Quand on voit des photos de chiens, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, c'est des chiens qui sont extrêmement maigres et qui ont une vie extrêmement brutale. Et ça, c'est étonnant parce que ça représente quasiment les trois quarts, les quatre cinquièmes des chiens sur cette planète.
Je crois que j'en peux plus d'avaler ces ordures.
Me lance
exact,
pas
tu m'enlèves les mots de la bouche.
On a domestiqué une espèce sauvage pour la rendre dépendante, quelque part, de l'être humain et compatible avec nos modes de vie, ce qui lui a fait perdre certaines qualités de l'espèce sauvage. Pour autant, ces animaux n'ont pas le confort d'un foyer partout sur Terre, loin de là.
Mais est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont redevenus sauvages en quelque sorte, puisqu'ils sont obligés de...
Alors, les caractéristiques...
Enfin, pas de chasser d'ailleurs, ils ne peuvent pas chasser.
Enfin, ils chassent, mais de façon médiocre. Ça, les chiens errants, par exemple, en Afrique, ont fait l'objet de pas mal d'études, et on s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment de très mauvais chasseurs. Ils n'arrivaient pas à reconstituer l'efficacité de la meute que la meute de loups pouvait avoir. Et ils finissent d'ailleurs souvent sous la dent d'un léopard, d'un lion ou d'une hyène. Il faut bien insister là-dessus, une espèce domestique, puisqu'on a modifié les gènes, ne peut pas redevenir à ce qu'elle était à l'origine. Il n'y a pas de backup qui permettrait de rembobiner l'histoire. En fait, la modification apportée génétique reste et perdure.
Donc là, on a dressé un tableau quand même, c'est catastrophique, des conséquences de la domestication à la fois sur les espèces sauvages et sur les espèces domestique. Est-ce qu'on peut imaginer de se passer de domestication animale ?
Alors ça, c'est une question qu'il ne faut jamais poser à quelqu'un qui fait de l'histoire, parce qu'on sait en histoire que le futur est totalement imprévisible. Il faut bien imaginer qu'il n'y a pas un instant de notre vie où un animal, en général domestique, n'intervient pas. On est totalement dépendant de la présence d'animaux, souvent totalement invisibles, qui sont omniprésents dans notre environnement. J'ai fait une sorte de liste, presque à la Prévert, à la fin du livre, pour essayer d'évaluer le nombre d'individus, d'animaux, qui étaient exploités par l'homme sur la planète. Alors, si on peut faire ce comptage pour les bovins, par exemple, les ovins, les caprins, dès lors qu'il s'agit de poissons, c'est beaucoup plus difficile. Dès lors qu'il s'agit d'animaux encore plus petits, c'est encore plus difficile. Toute notre histoire, tout ce qui fait notre identité, notre construction culturelle, est étroitement entrelacé, dépendant de la présence d'animaux, encore une fois, absolument innombrables.
Alors, le constat est assez terrible. La domestication est une relation de domination, mais il est très difficile d'imaginer comment on pourrait arriver à s'en passer ou à réparer les dommages qu'elle a causés, puisque nous sommes complètement dépendants de ces animaux domestiques et eux aussi sont dépendants de nous pour vivre. Ils ne pourraient plus vivre à l'état sauvage.
Rita, tu vas aller retourner dans la nature. Tu n'es libre et moi, je te rends ta liberté. Bah.
Mais il y a tout de même un animal domestique qui incarne une forme de libération possible. C'est le pigeon, qui partage un destin en partie comparable à celui des chiens errants des villes. Fahim Amir, un philosophe qui habite à Vienne, en Autriche, lui consacre quelques belles pages dans son livre « Révolte animale ». Le pigeon a longtemps été apprécié, que ce soit pour sa chair ou pour ses fientes qui servaient d'engrais, mais depuis quelques années, il est tombé en disgrâce, au point d'être considéré comme un rat volant.
No, it's not pretty at all there. They're rats with wings.
No, it's probably good omen. It'll bring us good luck.
No, get it out of here. It's probably one of those killer pigeons.
No, get something for it to eat. Talk to now. What are you doing?
Das alles änderte sich.
Tout cela a changé avec l'émergence de la ville moderne. Cela s'explique d'une part par le développement des engrais chimiques, qui sont beaucoup plus efficaces, et la mise au point de poisons contre les mauvaises herbes, qui a été une révolution agricole. Mais c'est aussi lié, par exemple, au fait qu'une nouvelle espèce est apparue dans l'assiette de l'homme moderne, à savoir le poulet industriel. Et en même temps, il y a eu une explosion dans les villes modernes occidentales. La société de consommation, la société d'abondance sont apparues, avec de très nombreux nouveaux habitats pour le pigeon, et plein de nouvelles possibilités de se nourrir et de vivre. Mais en même temps, ils ont perdu leur ancienne utilité. Et à cet égard, le pigeon est à présent un vestige d'anciennes fonctions économiques. Il est pour ainsi dire au chômage, même plus bon à être mangé. Il ne fertilise plus les champs, il ne mange plus les mauvaises herbes. Il se contente de traîner dans les villes et de nous regarder.
Et donc, votre livre s'appelle « Révolte animale » et en quelque sorte, vous parlez aussi de comment les pigeons se révoltent à leur manière. C'est quoi leur révolte ?
Dans la ville moderne, il apparaît comme le fauteur de troupes par excellence dans la métropole ordonnée. Parce qu'il ne s'est pas laissé tenir en laisse comme le chien, ni enfermé dans les appartements comme le chat. Lui, il s'approprie l'espace urbain. Pour le dire crûment, il mange, il défèque et il copule dans les lieux phares de la ville, y compris les lieux commerciaux. On ne le trouve pas comme les chevreuils ou les blaireaux dans les zones de nature à la lisière des villes, à la périphérie. Il ne vient pas rôder la nuit comme les rats ou les cafards, mais il s'approprie la ville en plein jour.
Les pigeons sont donc des fauteurs de troubles qui perturbent nos villes, mais pour Fahim Amir, ils sont intéressants dans la mesure où ils sèment aussi le trouble dans nos catégories de pensée, dans notre manière de classifier le monde animal.
Les pigeons se rebellent contre notre classement typologique des animaux. Il y a très souvent cette idée de l'animal sauvage auréolé de gloire dans la nature intacte. comme le lion, l'aigle ou d'autres animaux tout aussi charismatiques. Et d'un autre côté, il y a la typologie de l'animal de rente, de l'animal domestiqué, de l'animal opprimé dans l'élevage industriel. Et le pigeon est un animal retourné à l'état sauvage, c'est-à-dire qu'il a tiré tout le bénéfice de la civilisation, de la culture et de la domestication, mais il a ensuite choisi la liberté. Ce qui en fait un fauteur de troubles, car il bouscule les typologies traditionnelles avec la bonne nature et la pauvre nature, parce qu'il habite un troisième espace, celui de l'ensauvagement.
Faïm Amir remarque aussi qu'une forme de solidarité se noue souvent entre les pigeons et les personnes qui les nourrissent dans les parcs. Et il considère que cette alliance représente un modèle intéressant pour penser les relations entre les humains et les animaux.
Le nourrissage des pigeons par des gens âgés, en particulier des femmes âgées, est pour moi une forme de pratique militante dans l'espace public. Parce qu'il y a tant d'injonctions qui disent constamment « Ne nourris pas les pigeons, ça nourrit les rats, ça n'est pas écologique, c'est mauvais pour ces animaux. » Mais souvent, les personnes âgées se moquent de tout cela et persistent à nourrir les pigeons. Les personnes âgées qui nourrissent les pigeons sont peut-être un modèle très avancé des futures relations hommes-animaux. Ce qu'elles font au cœur de l'espace public pourrait être le modèle du futur. Car il ne repose pas sur la destruction d'espèces indésirables d'un côté ou leur ségrégation dans des parcs nationaux ou des sites naturels, mais sur une rencontre dans la ville, dans des conditions choisies par les participants. Car les pigeons peuvent aller et venir librement, mais ils peuvent tout de même interagir avec les gens.
L'être humain a créé des espèces puis des races domestiques pour répondre à ses besoins et ses envies. Ces animaux dépendent largement de nous pour survivre, jamais ils ne redeviendront vraiment des espèces sauvages. S'il n'y a donc pas grand sens à tous les libérer dans la nature, cela ne nous dispense pas d'imaginer de nouvelles formes de cohabitation et de solidarité.
Merci d'avoir écouté le podcast Des idées larges. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arteradio.com. Et pour regarder l'émission originale, retrouvez-nous sur arte.tv ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt.